Comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Je suis content que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bonjour messieurs, dames et bienvenue pour cette nouvelle émission de Culture et vous, l'émission de culture pop de Transistor. Vous qui m'écoutez régulièrement, vous savez que j'aime décortiquer les références de pop culture de ces dernières décennies. Films, séries, mouvements musicaux ou mythes urbains, chez Culture et vous, on aime parler de tout. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des badass. Vous les connaissez les badass? Mais si, c'est dur à cuire, qui n'ont peur de rien. Ils sont virils, baraqués et toujours gagnants. Genre Bruce Willis dans quasi tous ses films des années 90. Mais ça, c'était la définition qu'on avait à l'époque. Parce que depuis les années 2000, la donne a changé. Et oui, aujourd'hui quand on vous dit badass, vous pouvez l'assimiler à une nana qui envoie. Katniss Everdeen dans Hunger Games, Beatrix Kiddo dans Kill Bill, Trinity de la saga Matrix ou encore Hermione Granger des Harry Potter, toutes sont clairement considérées comme de sacrées badass. Mais pour en arriver là, il aura fallu que d'autres tracent la voie. Get away from her, you bitch. On pense bien sûr au mythique Helen Ripley de l'univers Alien et Sarah Connor de chez Terminator, véritable référence en matière de badass. Mais on n'oublie pas non plus l'iconique princesse Leia, l'une des premières femmes politisées et combattantes reconnues. Mais il y a aussi eu Buffy, la tueuse de vampires, l'une des premières blondinettes des années 90 qui n'a pas eu besoin de l'aide d'un homme pour se sauver des méchants. Vous l'aurez donc compris, ce terme anglophone nous permet aujourd'hui de parler d'héroïnes qui sont fortes, courageuses, intrépides et indépendantes. Ce statut, qui fut un temps réservé aux hommes, s'ouvre maintenant aussi aux femmes dans la pop culture. On retrouve de plus en plus de films, de séries et même de jeux vidéo où le personnage principal est une femme. Et ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Et si la société évolue, sa culture aussi. Car il ne faut pas oublier que la pop culture, c'est la culture faite par et pour le peuple. Alors forcément, si l'une bouge, l'autre s'adapte. En préparant cette émission, je me suis penchée sur les héroïnes les plus connues et reconnues en matière de badass. J'en ai trouvé un sacré paquet, mais les présenter n'auraient finalement été qu'une succession de portraits. Alors j'ai réfléchi, et oui, ça m'arrive, et là, s'est présentée à moi une des meilleures références en termes de pop culture qui, en plus, nous régale en ce qui concerne les héroïnes badass. Je veux bien sûr parler de la série américaine Game of Thrones, une série qui aura explosé de nombreux records et permis à des millions de fans de découvrir un univers fantastique. Maintenant, c'est à votre tour d'enfourcher un dragon et de passer par-delà le mur. Je m'appelle Audrey, bienvenue dans Culturez-vous. Avant d'aller plus loin, je tiens à signaler que la série étant terminée, certains éléments de l'intrigue vont être dévoilés. Donc, s'il vous reste des épisodes à voir, foncez les regarder et revenez ensuite écouter notre émission. Aussi, que les puristes me pardonnent, mais la radio avec sous-titres n'étant pas encore inventée, de nombreux extraits seront en français. Oui, je sais. Mais rangez vos pierres et vos fourches, je mettrai aussi de la VO. Maintenant que c'est dit, commençons par le commencement. Si certains d'entre vous connaissent Westeros et ses personnages comme leur poche, d'autres ont certes entendu parler de Game of Thrones, mais ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Alors on peut déjà situer la série en rappelant que c'est une série de type Heroic Fantasy ou Medieval Fantastique. L'Heroic Fantasy, c'est un univers où se mêlent magie, créatures légendaires et souvent combats d'épée. En référence concrète, on pense au Seigneur des Anneaux bien sûr, mais aussi aux séries kitsch des 90s type Xena la Guerrière ou Hercule. Game of Thrones, c'est donc un univers fantastique qui se déroule dans une ambiance pleine de couronnes, de chevaliers et qui sent fort le Moyen-Âge. Trop longue pour certains, trop courte pour d'autres, la série adaptée des romans de R.R. Martin s'est étendue sur 8 saisons, de 2011 à 2019. Pour résumer autant que possible la série, je dirais que vous avez dans une même histoire trois intrigues distinctes, qui forcément vont finir par se rejoindre. La première est une guerre de pouvoir, disons classique, pour savoir qui va s'asseoir sur le trône de fer et diriger les sept royaumes. Une lutte sans merci qui va mêler sept grandes familles, dont les Stark, les Lannister ou encore les Baratheon. Vous avez ensuite une deuxième thématique qui est l'arrivée des Marcheurs Blancs. Et oui, avec l'hiver débarquent aussi des créatures maléfiques parées à détruire les humains et à les transformer en une armée de zombies.
Il y a des milliers d'années, on a connu une nuit qui a duré toute une génération. Les rois mouraient de froid dans leurs châteaux, comme les pauvres bergers dans leurs masures. Et les femmes étouffaient leurs bébés plutôt que de les voir périr de faim. Et elles pleuraient et elles sentaient les larmes gelées sur leurs joues. C'est dans ces ténèbres que les Marcheurs Blancs sont arrivés pour la première fois. Ils ont dévasté les villes et les royaumes, galopant sur leurs chevaux morts, chassant avec leurs bandes de pâles araignées plus grandes que des limiers.
Et enfin, vous avez l'histoire de Daenerys Targaryen ou la revanche impressionnante de la princesse asservie, devenue mère des dragons et conquérante redoutable. Voilà donc pour les fondations. Ajoutez à ça un univers plein de personnages hors du commun, aussi humains que sadiques, aussi romantiques que violents et aussi fascinants que détestables. Complétez avec une bonne grosse dose de violence et de sexe et vous obtenez un phénomène mondial écrasant tout sur son passage. Mais pour vous donner une idée de ce que peut être un épisode de Game of Thrones, dites-vous que dès le premier épisode, vous pouvez par exemple assister à une décapitation, voir un enfant de 10 ans se faire pousser du haut d'une tour, ou encore découvrir la relation incestueuse, mais visiblement très consentie, d'un frère et d'une sœur. Voilà qui donne le ton. Avec Game of Thrones, on ne sait jamais à quoi s'attendre et ça, c'est juste génial. Une des spécialités de son créateur, c'est d'ailleurs la mort brutale et inattendue de personnages importants. Vous avez à peine le temps de vous attacher à l'un d'entre eux, qu'il va être empoisonné, décapité ou poignardé par je ne sais quel ennemi. Et quand on lui demande pourquoi il aime tant faire disparaître ses protagonistes, voici ce que R.R. Martin répond.
Ce que je veux, c'est que mes lecteurs ressentent que personne n'est en sécurité. Je veux qu'ils soient impliqués émotionnellement dans les romans. Si les personnages sont dans une situation difficile ou effrayante, eh bien je veux que le lecteur ait peur presque de tourner la page suivante parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Est-ce que le personnage va vivre, va mourir? Ils ne le savent pas.
Il n'y a pas à dire, en matière de suspense et de rebondissement, on peut dire que Martin est un véritable génie. Celui qui a vu le jour en 1948 à Bayonne dans le New Jersey a toujours été un féru d'histoire avec un grand H. Lui qui au départ était lancé sur des études de journalisme s'est vite rendu compte que sa plume l'amenait plutôt vers une carrière d'auteur. Mais ses premiers écrits sont plutôt tournés vers la science-fiction et les super-héros. Nous sommes au milieu des années 80, ses nouvelles sont régulièrement récompensées et il est rapidement embauché en tant que scénariste sur des séries télé comme La 5ème Dimension ou La Belle et la Bête. Mais début 90, R.R. Martin en a assez des limites imposées par le format télé. Il veut écrire plus grand. Alors en 91, il se lance dans la création de l'œuvre qui changera son destin.
We'll be right back.
De retour sur Transistor avec Culture et vous, et aujourd'hui on vous parle des badass de Game of Thrones. Comme je vous le disais avant notre pause musicale, nous sommes au début des années 90 et R.R. Martin commence à écrire un roman intitulé Game of Thrones. Pour ce roman, fini les super-héros et les vaisseaux spatiaux, Martin va se plonger dans une ambiance plus fantastique et moyenâgeuse. Pour ça, il va s'appuyer sur les œuvres de Tolkien ou encore la saga des Rois Maudits de Maurice Druon. Véritable passionné d'histoire médiévale, il va aussi s'inspirer de nombreux événements réels comme avec la guerre des Deux Roses en Angleterre qui opposa les familles Lancaster et York dans une lutte de pouvoir sanglante. Tiens, tiens. Il s'inspire aussi de décors réels, comme avec le mur que l'empereur romain Hadrien fit construire en Angleterre pour se protéger des envahisseurs.
J'adore l'histoire, voyez-vous, la fiction historique également. Le mur d'Hadrien, ça a été l'une des sources de mon mur, bien évidemment, une inspiration. Longtemps avant que je savais, que je sache comment j'allais l'utiliser, j'ai rendu visite à ce mur. Je me suis mis debout sur ce mur au coucher du soleil, la plupart des touristes étaient partis. J'ai essayé d'imaginer ce que ça devait être d'être un légionnaire romain debout sur ce monde, sur ce mur, sans savoir ce qui était au-delà, ce qui allait vous attaquer. C'était une sensation très très profonde, il voulait capturer cela à un moment ou à un autre.
Si à l'origine il avait envisagé de n'en faire qu'une trilogie, le succès et l'engouement des lecteurs et téléspectateurs a fait que nous en sommes aujourd'hui à 5 volumes. Dès le départ, le livre fait un carton et remporte de nombreux prix. La chaîne américaine HBO flaire le bon plan et achète les droits en 2017 pour en faire une série. Nous sommes en 2019 et HBO découvre le premier pilote dans lequel elle a investi 10 millions de dollars. Mais cette première version n'est pas du tout au goût de la chaîne qui décide de changer de réalisateur pour réécrire et retourner une nouvelle version. HBO engage alors Daniel Weiss et David Benioff qui se lancent dans le projet avec certains nouveaux acteurs. Et oui, si aujourd'hui on connaît les personnages de Daenerys Targaryen alias Khaleesi et Catelyn Stark sous les traits d'Emilia Clarke et Michelle Fairley, au départ les rôles étaient incarnés par Tamsin Merchant et Jennifer Hayley. 2011, le nouveau pilote est donc validé par la chaîne et l'Amérique découvre enfin l'adaptation télé de Game of Thrones. C'est violent, il y a aussi beaucoup de sexe, des personnages totalement border, tout ça sous fond de lutte de pouvoir. Bingo. Si au départ, les audiences partent sur 2 millions de téléspectateurs, très vite le bouche à oreille fonctionne et des millions de personnes deviennent accros. À la fin de la dernière saison, 8 ans plus tard, l'ultime épisode de la série a réuni presque 20 millions de personnes. Un véritable record. Et ça, c'est sans compter les téléchargements illégaux et les replays.
Vous écoutez Culturez-vous sur Transistor, présenté par Audrey.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'une simple série devient le plus gros carton de l'histoire de la télé, explosant tous les records et devenant la série la plus téléchargée de l'histoire ? Peut-être est-ce le fait que malgré son époque et ses décors chimériques, la série nous renvoie à notre propre société. Les luttes de pouvoir, les jeux d'alliances politiques, le changement climatique, les enjeux de territoire ou encore les hiérarchies sociales sont autant de sujets que nous retrouvons au cœur de notre monde réel. Et ça, mine de rien, ça nous pose inconsciemment question sur comment pourrait évoluer notre société. Et dans Game of Thrones, un autre parallèle entre réel et fictif peut vite sauter aux yeux. Cet élément, c'est la place des femmes. Comme dans la réalité, le rôle des femmes dans la série est au départ très limité et beaucoup sont associées à un homme. Femme d'eux, fille d'eux, au service d'eux. Alors comment ces femmes tout d'abord représentées comme des stéréotypes de genre, la mère dévouée, la princesse ingénue, la sœur soumise, comment sont-elles devenues les véritables badass de la série et ont réussi à prendre le pouvoir ?
Je suis confuse d'être partie de cette façon.
Oui, j'ai eu du mal à expliquer pourquoi ma femme est partie juste après le meurtre du roi.
Nous avons survécu tous les deux.
Beaucoup vous ont mésestimé. Ils sont morts pour la plupart.
Et oui, les filles sont dans la place. Sur les 6 personnages que l'on voit le plus à l'écran sur l'intégralité des saisons, 4 sont des femmes. Cersei, Sansa, Daenerys et Arya. Sachant qu'on partait sur un éventail de presque 150 personnages, il fallait vraiment envoyer du bois pour sortir du lot et prendre le pas sur la clique de guerriers et autres rois valeureux qu'on nous avait donné au départ. Un changement heureux qui n'est pas sans rappeler celui qui se déroulait au même moment dans notre propre société. Et oui, en l'espace d'une dizaine d'années, on sait que la place des femmes a évolué et les mécanismes narratifs qui passaient il y a quelques temps se retrouvent aujourd'hui dépassés. Coucou Caroline Ingalls!
Vous êtes sur Transistor et vous écoutez Culturez-vous.
Pendant des années, les séries ou les films nous ont proposé une image assez simple et limitée de la femme et de ses capacités. Les problématiques tournaient rapidement autour du foyer, des amis et des garçons. Et rapidement, on pouvait distinguer des catégories dans lesquelles les ranger. La mère, l'épouse, la vierge ou la putain. Voilà qui limite bien la donne. Bien sûr, certaines ont réussi à kicker la fourmilière et à s'imposer comme les badass du genre. C'est donc grâce à des personnages comme Thelma et Louise, Dana Scully de X-Files ou même Samantha Jones de Sex and the City que l'image de la femme a pu évoluer dans la pop culture. Dans Game of Thrones, donc, on a nos quatre badass principales qui ont réussi à s'imposer dans ce milieu bourré de testostérone, même si ça a franchement été un parcours du combattant ou plutôt de la combattante. Prenez le personnage de Cersei Lannister. Si au départ, on la voit comme une dépravée couchant avec son frère, complotant contre le reste du monde et laissant tout passer à son psychopathe de fils, on voit aussi que son statut évolue au fil des saisons. Certes, elle est toujours détestée, mais elle sera pourtant prise en pitié par le public lors de la saison 5 et sa fameuse marche de la honte. Pendant 7 minutes, Cersei, pour se repentir de son péché d'adultère et retrouver son foyer, se voit littéralement mise à nu et obligée de traverser une foule haineuse.
Oh, shame! Shame! Oh, shame! Shame! Shame!
Petite parenthèse de tournage, l'actrice Lena Headey, qui incarne Cersei, avait une doublure corps pour cette marche. Étant enceinte, forcément, c'était plus compliqué de le faire soi-même. Mais ça n'a pas empêché que cette marche de la honte soit l'un des points culminants de la saison 5. On sait que pour les prochaines, Cersei va prendre sa revanche sur tous ses oppresseurs et que ça va faire vachement mal. Et c'est bien le cas. Cersei brûle, torture et se venge comme il se doit avant d'arriver au sommet. Mais quand même, elle aura dû subir un viol conjugal, des humiliations, de la torture et même une marche barbare pour justifier son ascension jusqu'au trône.
Je proclame Cersei de la maison Lannister, première du nom, reine des Andals et des premiers hommes, protectrice des sept couronnes.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine. It's a new day, it's a new life for me.
émission de culture populaire, c'est Culturez-vous sur Transistor.
Cersei n'est pas la seule à avoir subi violence et humiliation. Ses collègues, Sansa et Daenerys, en ont aussi vu de belles avant d'arriver au pouvoir. Elles aussi sont passées par les manipulations, les tortures psychologiques et physiques, et elles aussi ont subi le viol conjugal lors de mariages forcés.
Je sais comment manœuvrer un homme comme Drogo. Je lui donne une reine et il me donne une armée.
Je ne veux pas être sa reine. Je veux retourner à la maison.
Moi aussi. Je veux qu'on retourne tous les deux à la maison, mais ils nous l'ont prise, notre maison. Alors dis-moi, ma charmante sœur, comment fait-on pour retourner à la maison?
Je ne sais pas.
On retourne à la maison avec une armée. Avec l'armée de Khal Drogo. Je laisserai la totalité de sa tribu te baiser. L'ensemble de ses 40 000 hommes et leurs chevaux aussi, s'il fallait en passer par là.
Mais elles aussi en sont sorties. Pour chacune d'elles, l'auteur a développé une forme de résilience. Elles deviennent au fur et à mesure de leur épreuve de véritables warriors et chefs de clan implacables, capables de renverser des royaumes. Et en plus, l'auteur leur a fait garder leur part de féminité, ce qui n'est pas le cas pour toutes. Parce que pour certaines, et là on pense à Arya et Brienne de Tors, on voit tout de suite que ce qui leur permet d'être des guerrières d'entrée de jeu, c'est leur côté, désolé pour le terme, garçon manqué.
T'es pas chevalier ?
Non, une femme ne peut l'être.
Pourquoi ça ?
La tradition.
Tout au long de l'œuvre de R.R. Martin, ce qui distingue Arya et Brienne, et qui parfois leur sauve même la vie, ce sont leur apparence et leur attribut dit masculin. De toutes les dernières grandes figures féminines, ce sont les seules qui ne subissent pas d'agression sexuelle ou de viol, les seules pour lesquelles la vue de leur corps nu est préservée. Et pourtant, des petits culs nus dans Game of Thrones, on en a vu. Enfin, surtout des fesses de femmes, visiblement. Sur les 7 premières saisons, 26% des actrices apparaissent dénudées, contre 11% des acteurs qui sont tout de même 3 fois plus nombreux. Alors là-dessus, même sur le plateau, les femmes ont pris le pouvoir. À l'instar d'Emilia Clarke. À l'instar d'Emilia Clarke, à qui après la première saison, quand on lui a demandé de dévoiler un peu plus son corps pour faire plaisir aux fans, a répondu, et je cite, « Allez vous faire foutre ». En tout cas, ça n'a visiblement pas empêché ces mêmes fans de devenir de plus en plus nombreux et de plus en plus addicts. Des communautés entières se sont créées autour de cette série, qui est d'ailleurs devenue la première et la seule à ce jour à devenir une série collective. Mais qu'est-ce qu'on entend par série collective ? Eh bien, c'est une série qu'on aime regarder à plusieurs, chez nous ou même dans des lieux différents. Diffusée dans plus de 200 pays, il s'est organisé un nombre incalculable de séances de visionnage dans des bars, des cinés, des maisons, entre amis, avec des inconnus. Tout était possible du moment qu'on était ensemble. Des foules vibrant à l'unisson dans les victoires de leurs héros, terrassées ensemble également quand ils se faisaient massacrer. Et tout ça sous l'œil des téléphones portables qui retransmettaient leurs réactions sur les réseaux. Vraiment, quand on y repense, le monde vivait au rythme de Game of Thrones. On avait ceux qui regardaient, ceux qui s'en foutaient mais qui subissaient quand même, ceux qui n'étaient pas d'accord, ceux qui n'étaient pas encore à jour et tentaient de vivre dans une grotte pour ne pas se faire spoiler, et ceux qui ne pouvaient s'empêcher de placer des punchlines de la série.
Winter is coming.
Et son diffuseur, HBO, savait qu'il ne fallait rien laisser au hasard et qu'il se devait de garder ses précieux fans. Alors il a mis les moyens. Au départ, on était sur un budget de 5 millions de dollars par épisode. Quand on sait qu'un épisode d'une série type Esprit criminel aux États-Unis coûte environ 3 millions, on n'est quand même pas hyper loin. Mais plus les saisons ont avancé, plus le budget a explosé. Lors de la dernière, on comptait 15 millions de dollars par épisode. Du jamais vu. Avec un budget total de 630 millions de dollars, elle est devenue la série la plus chère de l'histoire. Et en même temps, avec des acteurs principaux qui touchaient 500 000 dollars par épisode et des tournages dans plus de 10 pays, normal que ça chiffre vite. Mais rassurez-vous, avec des recettes de quasi 1 milliard de dollars par an, HBO s'en sortait quand même très bien.
Une émission de culture populaire, c'est Culturez-vous sur Transistor.
Forcément, avec un tel niveau d'investissement, la série ne pouvait être que récompensée par ses pairs. Et là aussi, Game of Thrones cartonne. 169 nominations aux Emmy Awards. Emmy Awards qu'on pourrait qualifier par Oscar de la télé. Et là encore, c'est un record absolu. 59 statuettes gagnées par la série. Game of Thrones a tellement marqué la pop culture qu'en France et aux États-Unis, on trouve plus de 500 petites filles prénommées Khaleesi. En Grande-Bretagne, le prénom Arya a quand même été classé dans le top 20 en 2018. Oui, bon, on a connu la même après Beverly Hills avec Brandon et Kelly, hein. Et pour continuer de fidéliser encore plus ses fans et éviter qu'ils partent sur Netflix ou Disney, HBO a bien compris qu'il fallait continuer de miser sur une franchise qui a fait ses preuves. C'est pourquoi on connaît déjà son premier spin-off, ou série dérivée, avec House of Dragon, dont la deuxième saison ne devrait plus tarder. Basée sur l'histoire de la chute de la maison Targaryen, ce n'est pas la seule adaptation des œuvres de l'auteur qui devrait voir le jour. Dans les années à venir, ce n'est pas moins de 5 séries, dont une sur Jon Snow, qui seront lancées. C'est dire si on n'a pas fini d'entendre parler de Game of Thrones. Et si en plus, son auteur, R.R. Martin, se décide enfin à terminer sa saga, alors là, c'est le jackpot. Et oui, parce que si la série est terminée, elle, ce n'est pas le cas des bouquins. À sa sortie télé, Martin avait écrit les 5 premiers livres qui correspondaient aux 5 premières saisons. Mais ensuite, il a dû écrire en direct, entre guillemets, la suite et la fin de l'histoire. Les producteurs lui avaient même demandé de leur donner le dénouement final juste au cas où Martin passerait l'arme à gauche. Charmant. Enfin, ce décalage explique peut-être cette fin de série, disons, décevante pour énormément de fans. Même si je dois bien avouer qu'elle me laisse moi aussi dubitative. Mais bon, je continuerai d'adorer cette série et je repenserai toujours aux soirées visionnage avec les copains en mode... You know nothing, Jon Snow. Allez, trêve de souvenirs, en attendant la prochaine émission qui sera pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture, je vous fais des bisous, des bécos et vous dis à tantôt.
Comment est votre blanquette ?
La blanquette est bonne.
C'est loin, mais c'est beau. Hein.
Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15.
Culturez-vous, une émission pleine de pop, pleine de culture, pleine de pop culture.
Ce n'est quand même pas Harry Potter.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Ah bon, il n'y a pas de prénom.
Il s'appelle juste Leblanc.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.